Bien, je vous invite à lire ensemble un texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, au chapitre 3, je vous propose une lecture à partir du verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tu achètes des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Sache que moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. La ville de Laodicée, à laquelle le Seigneur s'adresse, est très très différente de sa voisine Philadelphie, qui a fait l'objet de la lettre précédente. Autant Philadelphie est petite, autant Laodicée est une ville importante. Je m'y suis rendu moi-même plusieurs fois, sur les traces de l'apôtre Paul et sur les lettres de l'Apocalypse. La Turquie n'a pas assez d'argent pour faire les fouilles. Il n'y a donc aucune fouille sur ce site. Mais il faut savoir que le site de Laodicée, c'est en gros 2,5 fois Paris. Au 1er siècle de notre ère, la ville de Laodicée occupe une place tout à fait stratégique, tout simplement parce qu'elle est au carrefour de 3 grandes routes. Et donc, un commerce s'est développé, un commerce qui était réputé, d'abord pour son industrie textile, puis pour ses tapis, puis pour ses vêtements. Bref, Laodicée, c'est une ville riche, mais c'est aussi une ville qui est très fière. Et lorsqu'en 60, après Jésus-Christ, la ville est partiellement détruite par un tremblement de terre, Laodicée va refuser l'aide de Rome en ces termes : je suis riche, je n'ai besoin de rien. L'Église qui se réunit à Laodicée a bénéficié très tôt du soutien de l'apôtre Paul, qui est peut-être, personne ne le sait, mais qui est peut-être à l'origine de la communauté. Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul évoque le grand combat, le grand combat qu'il mène pour soutenir cette église de la Odyssée. C'est dans Colossiens chapitre 2, verset 1. La Odyssée établie non loin de Colosse. Elle a aussi été au bénéfice du ministère d'Épaphras, comme le mentionne l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens. L'église de la Odyssée avait tout, je dis bien tout, pour réussir. Un contexte économique dynamique favorable, des liens fraternels avec l'église sœur qui était à quelques kilomètres, celle de Colosse, un enseignement de qualité. L'apôtre Paul lui-même a enseigné dans cette église. Cette église qui s'entend dire par le Seigneur, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors il reste une question à laquelle nous devons répondre. Que s'est-il donc passé? Que lui est-il arrivé? Quel est son problème? Au moment où Jean écrit l'Apocalypse, il semble que la communauté de la Odyssée se soit laissée aller à une certaine tiédeur spirituelle. Je connais ton état, moi le Seigneur. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parole étrange. Est-ce à dire qu'il vaut mieux être froid que tiède? Bouillant pour Dieu, tout le monde le comprend. Mais froid. En quoi est-ce une bonne chose d'être froid devant la parole de Dieu? En fait, ces paroles ne se comprennent vraiment que si on les situe dans le contexte de la ville de la Odyssée. Si nous ne replaçons pas ces mots, ces phrases, dans le contexte de l'Église, nous ne comprenons rien. En effet, bien que fort économiquement, la ville de la Odyssée, et l'Église donc, avait une faiblesse. Et cette faiblesse, elle se situait par rapport aux villes voisines. La Odyssée était la seule ville qui ne bénéficiait ni des eaux chaudes de la ville de Hiérapolis, qui se trouve à 6 ou 7 kilomètres, et qui ont encore aujourd'hui des vertus thérapeutiques, et elle ne bénéficiait pas non plus des eaux froides, désaltérantes, qui coulaient à Colosse, au même nombre de kilomètres. L'eau de la Odyssée provenait des montagnes. Or, avant d'atteindre la ville, elle circulait dans des kilomètres d'aqueduc. De sorte que quand cette eau arrivait à la Odyssée, réchauffée par le soleil, elle était tiède. Elle était nauséeuse. Il ne faut donc pas voir dans ces différences de température, froid, tiède et bouillant, 3 degrés de spiritualité, mais plutôt 2 états. L'un qui est bon et utile, comme l'est ou comme l'était, non, comme l'est toujours, les eaux chaudes, thermales et thérapeutiques de Hiérapolis, ou encore les eaux froides et rafraîchissantes qui coulaient et qui coulent toujours à Colosse. L'autre état qui est mauvais et que connaît malheureusement bien la Odyssée avec son eau tiède, c'est vrai, inspire le dégoût et donne envie de vomir. Pour y être y allé moi-même plusieurs fois et pour avoir essayé de me désaltérer aux sources, je peux vous dire que quand vous êtes fatigué et transpirant d'un voyage et que vous buvez de l'eau tiède, ça donne envie de vomir. Et l'attitude spirituelle que cette image dénonce, c'est celle d'un cœur, mes amis, d'un cœur qui est devenu indifférent, probablement entraîné par ses richesses. L'église de la Odyssée a perdu sa vraie identité. Elle a perdu sa vraie valeur. Elle a perdu le goût qui donnait envie aux autres de la connaître. J'aime cette phrase que me disait un couple l'autre jour. J'aime venir à l'église parce qu'on sent que chez vous, il y a beaucoup d'amour et on est toujours bien accueillis. C'est agréable quand un pasteur entend ça. Mais la Odyssée avait perdu ce goût. Elle ne donnait plus envie. Et son problème à la Odyssée, qui est peut-être le nôtre, c'était celle de vouloir plaire à tout le monde. Ça, c'est notre problème à nous. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aimerais plaire à tout le monde. J'aimerais que tout le monde me dise « Jean-Claude, oh, il est génial !» Elle est devenue tiède et finalement, elle n'attire plus personne. La tiédeur, vous le savez, c'est un mélange de chaud et de froid. On appelle ça un compromis, un consensus qui arrange tout le monde et qui finit par ne plus rien dire à personne. À force de mélanger le message, il ne veut plus rien dire du tout. Et c'était le problème de l'église de la Odyssée. Souvenons-nous, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds, disait Jésus. Non seulement le message qu'elle cherche à transmettre n'a plus vraiment de sens, mais c'est un peu comme un plat sans saveur. Est-ce qu'il vous est arrivé de manger sans sel ? Non, je n'ai pas dit du vélo sans sel. J'ai dit de manger sans sel. Ça m'est arrivé une fois. Et je peux vous dire que ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Et surtout, ça ne donne pas envie. Et le témoignage de la Odyssée fait plutôt office de repoussoir. Car bien que le témoignage de l'Église qui est en jeu, comme le laisse entendre Jésus lui-même, je vous rappelle qu'il se présente au début de la lettre comme le témoin fidèle et véritable. Ce témoignage est en passe de devenir un contre-témoignage. Et mes amis, écoutez bien, c'est un contre-témoignage qui donne maintenant la nausée. Peut-on s'imaginer qu'un témoignage d'église donne la nausée à ceux qui l'entourent ? À présent, je vous propose de voir comment cette église a pu en arriver là. Malgré tous les atouts dont elle disposait, je ne vais pas les rappeler. Je les ai expliqués tout à l'heure. À la racine du mal, il y a ce que j'appellerais l'esprit d'indépendance. Je suis riche, et j'ai besoin de personne. C'est une église qui verrait sans doute d'un très 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 mauvais œil que quelqu'un de l'extérieur vienne mettre son nez dans ses affaires. Elle croit qu'elle peut s'en sortir seule, sans l'aide des autres. Et même, et c'est le pire, sans l'aide de Dieu, qui va quand même lui rappeler, dans ses recommandations, que c'est pourtant auprès de lui et de lui seul que cette église va pouvoir se relever. Car, mes amis, la situation est critique, mais elle n'est pas désespérée. Cette église est atteinte par une forme de nombrilisme. Elle fonctionne à partir d'elle-même, c'est genre club privé, où pour entrer, il faut montrer sa carte. Résultat, nous le voyons, il n'y a plus de fruits. Elle est devenue misérable, pauvre, aveugle et nue. Avouez avec moi, frères et sœurs, que pour une église qui se croit forte, pour une église qui se croit autonome, ça fait quand même beaucoup. Alors qu'elle se croyait arrivée, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas encore partie. Triste constat d'échec. Et je voudrais vous faire remarquer que personne n'est à l'abri de ce piège. Pas plus d'ailleurs que ceux mentionnés dans les autres lettres. Et il me semble que ce n'est pas pour rien si, dans sa sagesse infinie, le ressuscité nous interpelle. De la même manière, à la fin de chacune de ses lettres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Aujourd'hui, on pourrait le traduire par « à bon entendeur, salut ». Vous savez, frères et sœurs, c'est très facile de faire la sourde oreille. C'est très facile de faire la sourde oreille quand Dieu met le doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie. Quel est le remède ? En existe-t-il un ? Le premier remède, frères et sœurs, c'est de recentrer notre vie sur Dieu. De recentrer notre vie sur Dieu. Achète de moi, lui dit avec un certain humour le ressuscité. Cette église si indépendante ne pourra s'en sortir que si elle dépend à nouveau entièrement du Seigneur. La foi, c'est l'apprentissage de la dépendance à l'image de cet enfant que Jésus va placer au milieu de ses disciples et en leur disant « Si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Quelle claque les disciples ont pris ce jour-là, eux qui croyaient avoir droit à la première place. Certes, nous vivons aujourd'hui dans une société qui nous enseigne l'autonomie. La dépendance qui se transforme malheureusement souvent en individualisme. La foi chrétienne nous enseigne le contraire, frères et sœurs. Elle nous enseigne la dépendance de Dieu. La solidarité, c'est ce que nous enseigne la Bible. La solidarité, parfois, jusqu'au sacrifice. Que lui faut-il acheter de Dieu pour se relever ? Verset 18, d'abord de l'or purifié par le feu. Pour recombler ou pour combler la pauvreté spirituelle que le ressuscité vient de dénoncer. Certains voient dans cette recommandation une exhortation à retourner à l'obéissance de la parole de Dieu. Vous savez aussi bien que moi que le prophète Jérémie a comparé Dieu à un feu au 23e chapitre de son livre. Pour qui la reçoit avec humilité, cette parole purifie. Cette parole opère une œuvre de sanctification dans le cœur. Comme Dieu s'est ainsi manifesté dans le buisson ardent, comme Dieu est saint, la Bible nous exhorte à devenir saints. Et c'est là que se trouve notre vraie richesse, dans la sainteté. Parce que c'est une richesse qui ne dévaluera jamais. Ensuite, il s'agit de revêtir des vêtements blancs qui couvriront la honte de la nudité. Chacun sait que le vêtement blanc symbolise le pardon, la pureté. Dans l'Apocalypse, le vêtement blanc est donné aux rachetés, à ceux qui sont restés fidèles dans l'épreuve. Et rappelez-vous ce que je disais il y a quelques minutes, à la Odyssée où l'industrie du textile est en plein essor, l'image du vêtement était particulièrement significative. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, dira Paul aux Galates. Et dans ce passage, Paul nous enseigne que c'est par le baptême que nous revêtons le Christ. Le vêtement, c'est le Christ qui nous a pardonnés, qui nous a sauvés. C'est lui que nous revêtons en le confessant publiquement au moment du baptême. Ce n'est donc pas, comme certains le croient, ce n'est donc pas le baptême qui sauve. Mais le baptême est le sceau, la marque qui atteste notre appartenance au Seigneur. La preuve, c'est que dans la parabole du festin de noces, celui qui n'a pas revêtu l'habit de noces s'est fait remercier par le maître des lieux qui lui a demandé « Mais comment est-ce que tu as pu entrer dans la salle sans ton vêtement de noces ?» Puis après lui avoir posé cette question, sans même attendre la réponse, relisez le texte, il l'a jeté dehors. C'est dans Matthieu 22, chapitre 22, verset 11. Cet homme sans habit représente celui qui se laisse entraîner par les autres, sans jamais avoir pris de décision dans son cœur, sans s'être engagé personnellement. Et cette personne, un jour, s'entendra dire de la part du Seigneur, « Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. » Et je dois dire, frères et sœurs, que si je fais ce que je fais dans mon ministère pastoral, je le fais de tout mon cœur, de toutes mes forces, et Dieu en est témoin. Parce que je ne veux pas entendre mon Seigneur et mon Sauveur me dire autre chose que « Bienvenue Jean-Claude, tu as été un bon et un fidèle serviteur. » Puis vient le collyre. Là aussi, cette image n'est pas choisie au hasard, car il y avait à la Odyssée une école de médecine. Une école de médecine qui était réputée pour soigner la maladie des yeux. Elle soignait la maladie des yeux à partir d'un collyre bien connu qui provenait d'un baume de Phrygie. L'église de la Odyssée est atteinte de cécité spirituelle. À force de dire « Moi, j'ai besoin de personne », elle est petit à petit devenue aveugle sans s'en rendre compte. D'où la question que je me pose et que vous feriez bien de vous poser. Qu'en est-il de mon acuité spirituelle ? En réalité, les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes ont souvent des problèmes de vue, tout comme nous pouvons tous avoir des problèmes d'audition. Il existe malheureusement aujourd'hui des chrétiens presbytes. Ils ne voient bien que de loin. Ils font une fixation sur le retour du Christ, sur la vie dans l'au-delà. Ils sont enthousiastes, ils chantent « Alléluia !» Mais leur vue se brouille dès qu'il s'agit de mettre en pratique les impératifs bibliques, de vivre la vie chrétienne et le service auquel le Seigneur les appelle. Il y a aussi des chrétiens myopes. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et ces chrétiens-là, eh bien, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je les reconnais assez bien. Parce que les chrétiens myopes sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de se plaindre, pourquoi ? Parce qu'ils ne voient que les nuages. Mais ils oublient le soleil qui est au-dessus des nuages. Et ils oublient qu'un jour les nuages se dissiperont et que le soleil apparaîtra. Mais le problème, c'est qu'ils sont tellement myopes qu'ils fixent leur attention sur les difficultés du moment. Et ils oublient celui qui les porte dans ces moments difficiles. Allô ? Ces chrétiens ont du mal à articuler leur foi de tous les jours et leur espérance a besoin d'être ranimée. Et puis, il y a aussi les chrétiens astigmates. Ils voient, mais de manière déformée. Ils ne voient que ce qui les arrange. Et ils ne retiennent de la parole que ce qui leur plaît. De sorte que la courbure de leur cornée spirituelle présente plein d'inégalités. Et le résultat, c'est que ces chrétiens évaluent mal les distances, et comme ils évaluent mal les distances, ils sont tout le temps en train de tomber. Et puis, il y a les chrétiens qui souffrent de strabisme spirituel. Et il y en a beaucoup dans les églises. Un œil sur la Bible et l'autre sur les plaisirs du monde. Ce qui est contraire, faut-il le rappeler, à la parole de Dieu. Ces chrétiens-là, malheureusement, voient double et ils se cassent souvent la figure. Et puis pour terminer, il y a ceux qui sont carrément aveugles, comme l'étaient les chrétiens de Laodicée. Ils ont beaucoup de mal à avancer. Ils n'y arrivent pas. Et le Seigneur leur conseille de oindre leurs yeux du collyre de l'esprit pour qu'ils voient clair. Moi, mes amis, ce que j'aime, je les reprends, dit Jésus, verset 19. Et l'heure, mes amis, est très grave, parce que quand on a un abcès, vous le savez aussi bien que moi, quand on a un abcès, on ne peut pas se contenter de mettre que de la pommade. On ne peut pas se contenter d'attendre que le mal se dissipe. Il faut le nettoyer. Et quand on nettoie la plaie, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais c'est pour notre bien. La situation de l'église de Laodicée nécessite des efforts, une prise de conscience. Alors, mes amis, je termine en disant, toute correction ne semble pas d'abord un sujet de joie. Quand on prend une correction, c'est un sujet de tristesse. Mais plus tard, elle procure la joie et la paix. C'est pas moi qui le dis. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Comment réagissons-nous quand Dieu nous corrige ? Comment réagissons-nous quand Dieu nous reprend ? Passionne-toi donc. Change radicalement. Et du zèle, dit le Seigneur. Qu'en est-il de notre zèle pour Dieu ? Qu'en est-il de ma passion pour Dieu ? Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, j'entrerai chez toi. Je ferai ma demeure chez toi. Et je termine en disant ce que citait Pascal. Pascal disait « L'enfer sera peuplé de la multitude de trois sortes de personnes. Les incrédules, les pécheurs invétérés et tous les tièdes de nos églises. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et ouvres, j'entrerai chez toi, j'entrerai dans ton cœur. C'est toi qui prends la décision d'ouvrir la porte de ton cœur. Si tel est ton cas, je t'invite maintenant à faire cette prière. Je vous invite à nous incliner. Nous prions. Si à ce moment précis tu veux avoir la paix avec Dieu, retrouver le chemin du Seigneur, alors je t'invite dans le silence de ton cœur à répéter cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Ici et maintenant, je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois que tu as souffert tout le châtiment de mes péchés, que tu en as payé le prix intégral. Tu étais parfaitement innocent. C'est moi qui étais coupable. En subissant mon châtiment, tu m'as exonéré. Tu as dit que si je venais à toi, tu ne me mettrais pas dehors. Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur maintenant. Et je te demande pardon pour ma tiédeur. Pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je décide de croire en toi. Je t'ouvre mon cœur. Viens, entre dans ma vie. Je t'accueille dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur de ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur, celui qui me sauve de mes péchés. Je crois à mon salut parce que j'ai invoqué le nom du Seigneur. Je sais que je suis sauvé maintenant. Je sais que je suis racheté. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Je sais que mes péchés ne peuvent plus me condamner. Maintenant, Seigneur, je décide devant toi de consacrer ma vie à te plaire. Aide-moi maintenant à tenir cette promesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.